France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel, Thierry Zaveroni, grand maître de la Grande Loge de France, élu en juin 2022 et qui arrive dans quelques jours au terme de ses 3 années de mandat. 3 années durant lesquelles il a présidé l'exécutif de notre obédience, cette fédération de loges, de frères, fidèle à la tradition du rite écossais ancien et accepté, mais pleinement ouvert aux enjeux du monde contemporain. Ouvert ainsi à notre histoire, à notre société. Il y a quelques jours à peine d'ailleurs, moment historique, le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, était reçu pour la toute première fois au sein même de notre obédience. Une rencontre autour de la laïcité et de l'anniversaire de la loi de 1905, loi fondatrice, loi de séparation des églises et de l'État. Ce moment fort marque-t-il une nouvelle reconnaissance du rôle que la franc-maçonnerie, et la Grande Loge de France en particulier, peuvent jouer au sein de notre société? Quelle place peut occuper aujourd'hui et demain une institution initiatique dans une société qui doute, qui se cherche, parfois même qui vacille? Et plus largement, quelles ont été les grandes lignes de ces 3 années de mandat? Autant de questions que nous allons aborder avec le grand maître de la Grande Loge de France que je remercie chaleureusement d'être avec nous. Cher Thierry Zaveroni, bonjour.
Bonjour mon cher Clément et merci de me recevoir.
Alors d'abord un mot sur cet événement rare, cet événement exceptionnel, je l'évoquais. Que représente pour vous la visite du président de la République à la Grande Loge de France?
Cette visite est une première historique. Elle n'est pas simplement symbolique, mais elle incarne une reconnaissance discrète mais réelle du rôle que joue la franc-maçonnerie dans le tissu républicain. Je dirais également dans le dialogue des consciences, mais surtout dans la transmission des valeurs fondamentales de notre pays. Pour les francs-maçons de la Grande Loge de France, recevoir le président de la République d'entre grand temple Pierre Brossolette, c'est, je dirais, accueillir la République dans ce qu'elle a de plus noble. Liberté, égalité et fraternité, vous le savez, cette devise qui depuis 1795, qui figure dans nos livres d'architecture, est donc la devise de la Grande Loge de France. C'est aussi, je dirais, un moment de vérité, un temps suspendu où la République honore la spiritualité sans dogme. Je dirais l'engagement sans bruit, la pensée libre et fraternelle. Cela montre que dans cette période de doute, le lien entre spiritualité et démocratie n'est pas une opposition, mais une véritable nécessité.
Vous évoquez une spiritualité sans dogme dans votre discours. D'ailleurs, je pense un discours fondateur et j'engage tous nos auditeurs à aller le réécouter sur le site gldf.org. Dans votre discours, au moment de cette visite présidentielle, vous avez célébré les 120 ans de la loi de 1905 et je dirais une certaine vision de la laïcité.
En effet, cette loi de 1905 est pour nous bien plus qu'un texte fondateur et comme je l'avais indiqué lors de ce discours, c'est une boussole. La laïcité n'est pas un principe froid, voire un cadre juridique désincarné. Mais elle est une expérience vécue, une forme de respiration partagée, une promesse sûrement de liberté intérieure. Je dirais que, loin d'exclure cette spiritualité, elle la rend possible parce que précisément, elle libère de toute injonction, voire de pression. Et ce que j'ai souhaité, ou plutôt ce que nous avons voulu rappeler lors de cette commémoration, c'est que la laïcité est un creuset, un espace de rencontre, de parole, d'écoute, où les consciences peuvent s'exprimer sans heurts, loin, je dirais, de l'invective quotidienne que nous pouvons vivre. Et d'ailleurs, dans nos temples, on ne demande pas aux frères ce qu'ils croient, mais surtout ce qu'ils cherchent. Et cette neutralité, je dirais bienveillante, permet un véritable échange, le respect de l'altérité. En fait, en résumé, la construction d'une fraternité réelle au service d'une concorde universelle. Enfin, et c'est pourquoi nous voyons dans cette loi de 1905 un sommet de sagesse républicaine, elle ne supprime pas, à mon sens, le sacré, elle le remet à hauteur d'homme, dans une forme de lumière où celui-ci se reflète dans sa propre conscience.
Alors j'évoquais ce monde qui nous entoure, qui doute et qui cherche. Comment faire entendre aujourd'hui une parole maçonnique qui soit à la fois fidèle à ses fondements spirituels et en prise avec le monde réel? En quoi le rite écossais ancien et accepté, qui est au cœur de l'identité de la Grande Loge de France, peut-il encore parler à notre société contemporaine, notre société du XXIe siècle?
En toute transparence, notre parole n'est pas une réponse. C'est une question posée au monde. Je pense que celle-ci, elle est plutôt silencieuse, mais elle veille. Et dans une époque de tumulte, de vitesse, voire de fragmentation, nous affirmons, au travers de la lenteur de ce que nous propose le rite, la profondeur des symboles. Et ce rite que la Grande Loge de France pratique depuis des siècles est d'une étonnante actualité. Il propose aux cherchants un parcours structuré, je dirais même exigeant, qui met en œuvre non seulement des idées, mais une manière d'être. Et il me plaît de rappeler que dans nos loges, ce rite écossais ancien et accepté permet à chacun de penser par soi-même, à écouter l'autre sans chercher, je dirais, à le convaincre, et à chercher, je dirais, le sens au-delà des apparences. C'est une parole de verticalité dans un monde saturé d'horizontalité.
Alors, lors de notre dernière émission, nous recevions deux jeunes frères récemment initiés qui partageaient avec nous le sens de leur démarche et ils nous montraient combien la tradition maçonnique avait tout d'une vraie modernité. Quelles pistes avez-vous envisagées pour assurer, je dirais, la vitalité de notre obédience pour les années à venir, et peut-être donner une place notamment à cette jeunesse toujours en quête?
Alors, on se connaît bien, et vous connaissez la place que j'ai souhaité pendant mon mandat laisser à la jeunesse. Ce matin, lorsque j'étais en route pour Paris, je lisais sur les réseaux sociaux une phrase qui a retenu mon attention. « La jeunesse représente le pilier de toute nation. » Ben, je souscris pleinement à cette pensée, et je peux vous affirmer que la jeunesse est là, elle est présente, elle frappe à la porte de nos temples. J'ai le sentiment qu'elle est en cherche de sens et d'engagement, et également d'une réelle fraternité. La Grange de France, donc, est une réponse. Elle n'aborde pas cette réponse sur le plan du marketing, mais par contre, elle est une écoute. Elle donne une réelle attention, je dirais, aux attentes de cette génération qui, globalement, nous le savons, refuse les faux-semblants. Nous avons renforcé depuis maintenant 3 ans nos canaux de communication et nous avons également investi les réseaux sociaux, ouvert, je dirais, des espaces de dialogue avec les jeunes frères. Et enfin, nous avons multiplié les conférences publiques en région, dans les loges et surtout dans la cité.
Alors la vitalité de l'obédience ne se mesure pas qu'en termes d'effectifs, mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques informations quand même sur l'obédience. D'ailleurs, comment va la Grande Loge de France?
Alors la Grande Loge de France, elle se porte bien. Nous avons réussi à stabiliser nos effectifs après une période extrêmement complexe de la Covid-19. Avec une dynamique extrêmement positive dans l'ensemble de nos régions. Mais je serais enclin à vous dire qu'au-delà des chiffres, c'est la qualité de l'engagement qui importe. Nos frères sont actifs, ils sont investis et présents dans les loges comme dans la cité. Ils ont repris, je dirais, le chemin de nos loges avec une belle assiduité. Et puis, nous avons su, et je crois qu'il faut le souligner, préserver notre spécificité initiatique tout en nous ouvrant aux enjeux contemporains. Et cela, je le crois, nous donne une assise solide. Cela me fait penser également à ce rayonnement international que nous pouvons affirmer aujourd'hui avec la naissance de nouveaux Orients et également une reconnaissance élargie et puis une parole fraternelle qui va bien au-delà de nos frontières.
Je le disais en introduction de cette émission, vous arrivez au terme de 3 années de mandat. Quelles étaient vos priorités en accédant à la fonction de grand maître? Quel est le sens que vous avez voulu donner à ce mandat?
Après 37 ans d'appartenance à la Grande Loge de France, je suis entré dans cette fonction avec humilité, mais surtout avec une conviction forte. La franc-maçonnerie n'a jamais autant été nécessaire qu'aujourd'hui. Et une de mes premières priorités, c'est de rappeler que nous ne sommes pas une institution parmi d'autres, mais un ordre initiatique. Une école, je dirais entre guillemets bien sûr, de transformation intérieure. Et j'ai souhaité, pendant ces 3 années, replacer la spiritualité au cœur du débat maçonnique. Non pas une spiritualité vague ou décorative, mais une démarche de vérité, de construction personnelle, je dirais même de responsabilité. Et pour renforcer cela, j'ai lancé des appels à la fraternité, nous avons travaillé sur la fin de vie, sur l'intelligence artificielle, et également, au travers de ces questions dites à l'étude des loges, cette année, les frères de la Grange de France sont invités à réfléchir sur l'humain, le vivant et la planète. Donc nous avons affirmé que notre engagement dans le monde ne devait jamais nous éloigner du temple, mais bien au contraire, c'est le silence du temple qui nous donne la force de s'exprimer dans le bruit du monde. Et ce mandat a été traversé, en tout cas, par cette idée simple, faire entendre une parole libre, fraternelle et posée. En fait, en résumé, ne pas imposer, mais proposer, offrir une voix, celle de la lumière.
Vous parlez de l'engagement dans le monde. Le monde, vous l'avez justement très largement visité en parcourant tous les continents et en vous rendant, je crois, auprès de tous les frères, de tous les Orients de notre obédience.
Oui, alors cela a été l'un des grands bonheurs de ce mandat. J'ai eu vraiment l'honneur de représenter notre obédience sur tous les continents, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, mais bien sûr. Et surtout, vous dire que j'ai rencontré des frères unis par la même quête, porteurs des mêmes valeurs et également parlant le même langage symbolique, celui du rite. Et ces voyages m'ont montré à quel point la franc-maçonnerie est une grande et belle fraternité universelle.
On évoquait la présence du président de la République à l'hôtel de la Grande Loge de France. Il était accompagné, il faut le noter, de la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Ils ont visité ensemble le tout nouveau musée de la Grande Loge, musée d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une émission sur ces divers aspects de la pensée contemporaine. Je crois que la culture a été un accès vraiment important de votre mandat.
Oui, la culture, c'est ce qui relie, ce qui transmet et, je dirais enfin, ce qui éclaire. Et nous avons inauguré ce musée repensé, accessible, je dirais, à tous, profanes comme initiés. Ce lieu est un lieu vivant de mémoire et d'avenir, de symboles et d'histoire. Nous avons souhaité, avec le président du musée Archibiothèque, soutenir des auteurs, publier également, organiser des salons, notamment celui de la Grande Loge de France, le salon du livre qui va se dérouler le 14 et 15 juin prochain. En fait, mettre la culture au cœur même de notre action est un véritable acte de transmission.
Vous arrivez au terme de votre mandat de grand maître de la Grande Loge de France. En quelques mots, quel message aimeriez-vous adresser à ceux qui aujourd'hui cherchent peut-être un chemin de conscience, de fraternité et d'engagement ?
Je leur dirais, ne cherchez pas des réponses toutes faites. Cherchez une méthode, un espace bienveillant, un souffle. Notre maçonnerie ne promet rien. Elle propose, je dirais, un travail, un compagnonnage avec soi-même, avec les autres et surtout en écho avec le monde. On peut également dire que c'est un chemin de verticalité dans une société souvent étourdie par l'immédiat. Donc c'est un chemin qui est exigeant, mais voyez-vous, libérateur. Nous ne vous demanderons pas de croire ou de ne pas croire, mais simplement, nous allons vous inviter à chercher, à douter, à penser librement.
On arrive au bout de notre échange. Une question peut-être plus personnelle. Votre mandat prend fin. Je peux témoigner que vous n'avez pas ménagé votre peine, travaillant inlassablement pour notre obédience. Cher Thierry Zaveroni, qu'allez-vous faire demain et après-demain ?
Alors la première priorité d'abord, ce sera de m'occuper des miens, que j'ai mis entre parenthèses depuis 3 ans. C'est aussi me mettre un petit peu en retrait, écouter différemment, et puis reprendre le chemin du silence près de la colonne des apprentis. Il me restera à être un frère parmi les frères, où on est dans une œuvre engagée pour le commun, et bien sûr, continuer à être disponible pour transmettre, accompagner et témoigner.
Merci beaucoup Thierry Zaveroni. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à la loge Stella Maris, à l'Orient de Marseille, loge où fut initié notre invité de ce jour, Thierry Zaveroni, il y a 40 ans. Stella Maris, l'étoile de la mer, son nom dit à lui seul quelque chose d'essentiel, le besoin de repères dans la nuit, la confiance discrète en une lumière qui éclaire la route. Pour les marins, elle est guide et confidente, compagne des longues veilles, porteuse de nostalgie quand on quitte le port et d'espérance quand réapparaît dans la brume la silhouette familière de la côte et de la bonne mer pour nous, enfants de la veuve. Depuis plus d'un siècle, cette étoile ne s'est jamais éteinte. Elle continue de briller dans le ciel maçonnique marseillais et au sein de notre obédience. Guider l'homme libre vers la vérité, la paix et la fraternité, c'est la toute l'âme de notre obédience et c'est ce que porte le nom de cette loge Stella Maris, votre loge, cher Thierry Zaveroni. Dans l'actualité de la Grande Loge de France, de nombreuses conférences et événements programmés dans les prochaines semaines et que vous pouvez retrouver sur notre site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. Aujourd'hui à la technique Noé Chaban, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.